Un roi. Nous allons continuer. Nous avons, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, vous pouvez écouter le premier message que nous avons fait sur le premier chapitre de ce livre. Rapidement, j'explique que c'est un des livres historiques de la Bible, comme 1 et 2 Samuel que nous avons étudié il y a quelque temps. Cela continue l'histoire de la royauté instituée par Samuel avec Saül et puis David. Et maintenant nous voyons la continuation du royaume, comment le royaume va être affermi puis finalement va être divisé. Et ces événements historiques qui sont authentiques, on le voit par les détails historiques qui sont décrits, par les recoupements que l'on fait avec l'histoire officielle, l'histoire des historiens. Et ce qui est merveilleux, c'est que à travers ces événements, Dieu veut nous enseigner. Il vient, ces choses-là ont été écrites pour nous, sur qui la fin des temps va bientôt arriver. Ça, c'est 1 Corinthiens 10 qui nous l'affirme. Ce ne sont pas des textes poussiéreux, sans intérêt présent, bien au contraire. J'espère que ce que j'aime bien, c'est de communiquer une passion pour l'Ancien Testament. Autant le Nouveau Testament est généralement connu par les chrétiens, autant beaucoup de chrétiens font l'impasse sur l'Ancien Testament avec un Dieu qui était coléreux et sanguinaire, et ils veulent entendre juste « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vais vous réconforter ». C'est un vrai message. Mais quand on y regarde de près, quand on prend le temps, la peine de lire et d'étudier l'Ancien Testament, je suis toujours émerveillé, enthousiasmé par la continuité du message biblique qui montre la vérité du message biblique. Encore une fois, il y a une harmonie dans la Bible qui est divine, les hommes n'auraient pas pu manipuler les textes. Quand on pense que ça a été écrit sur plus de 1500 ans par plus d'une cinquantaine d'auteurs en 3 langues, sur 3 continents, avec des hommes qui venaient de tous les milieux, et pourtant le message est toujours le même. Et une des beautés de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle les types. Les types, c'est pas des mecs, des gens. Un type, c'est une empreinte. Un type, c'est une préfiguration dans des personnages, dans des situations de l'Ancien Testament qui correspondent, qui ont leur révélation, qui ont leur accomplissement en Jésus. L'Ancien Testament est dissimulé, est révélé, est accompli dans le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament est déjà en germe dans l'Ancien Testament. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir le chapitre 2. Et peut-être que certains d'entre vous lisent un peu à l'avance, je vous encourage à le faire, de lire au moins le chapitre suivant, pour être un peu prêt à commencer à vous poser des questions. Si je vous donne des réponses, mais que vous n'êtes jamais posé les questions, ça ne va pas le faire, comme on dit. Ça va passer au-dessus de la tête. Mais si vous avez lu ce passage du chapitre 2, vous dites, bof, on est encore parti pour un récit historique un peu ennuyeux, ça tue à tour de bras, et puis ça nous laisse un peu sur notre faim si on a soif de grandir dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec Jésus. J'espère qu'hier vous avez été très gentils. C'était officiellement la journée de la gentillesse. Vous saviez ? Moi, je pensais que c'était aujourd'hui, donc j'ai pas été spécialement gentil, je crois. Mais on a l'impression des fois que les chrétiens sont pas pris au sérieux parce que ils sont trop gentils. Jésus nous a dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ça, c'est dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5. Et c'est la vérité, on est appelé. Et c'est pour ça que dans le même chapitre, plutôt dans le même livre, dans le même évangile de Matthieu, il y a un verset qui... des paroles de Jésus qui surprennent toujours. C'est Matthieu 11, verset 12. Si vous voulez vous y tourner, c'est la deuxième page dans la Bible à la colombe, dans la seconde partie de la Bible, le Nouveau Testament. Et là, on est toujours un peu étonné. On se dit on a du mal comprendre, ou c'est pas Jésus qui parle, ou qu'est-ce qui se passe, parce qu'on est toujours dans cette optique du sermon sur la montagne où Jésus nous appelle à être doux avec les autres, à souffrir pour la vérité. Et là il est dit: depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, et c'est Jésus qui dit ces choses, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Wow. Le royaume des cieux est soumis à la violence, ça on veut bien comprendre ça, qu'il y a une opposition très forte, mais ce sont les violents qui le ravissent, qui le prennent, qui se l'accaparent. Est-ce que ce verset veut dire qu'on doit être... très agressif dans notre vie de chrétien? On doit se battre sans arrêt, on doit être un peu des chrétiens tueurs. On doit être prêt à couper des têtes et être violent pour ravir le royaume des cieux. J'ai pas fait de recherche, mais on se demande peut-être si c'est pas un verset qui inspirait peut-être certains des croisés qui partaient libérer les lieux saints au Moyen-Âge. Les violents ravissent. Alors encore une fois, un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. On peut utiliser ce verset et dire voilà, armez-vous les chrétiens, il y en a marre, on va répliquer aux attaques, aux persécutions, on va faire des commandos, on va faire des hélicoptères, on va voler, on va aller au Pakistan, on va faire des actions terroristes contre les personnes qui persécutent les chrétiens. Mais si on regarde le contexte, encore une fois, Jésus parlait de quelqu'un, il parlait de Jean-Baptiste, il parlait de cet homme qui était plein de zèle pour le royaume de Dieu. Et cette violence, c'est ce zèle agressif. Et ce que nous dit Jésus, c'est que la personne qui peut appréhender le royaume des cieux, c'est celle qui mobilise avec zèle, un zèle agressif, toutes les ressources en sa personne. Le mot de violent, lorsqu'il est dit les violents le ravissent, l'accaparent, le prennent, c'est un mot en grec qui a le mot vie, c'est le mot biostes, le mot bios, vous reconnaissez, le mot de la vie, la biologie, un régime bio, c'est pas beau, c'est bio. Les épiceries bio, souvent, pour nous, on dit c'est une épicerie chère. Mais leur idée, c'est de donner une meilleure alimentation pour donner la vie, une vie plus saine, une alimentation plus saine, sans produits chimiques. Et donc, un violent, c'est quelqu'un qui met toute son énergie, toute sa vie, toute l'énergie de sa vie, dans un dessein précis. Il est dit que ils ravissent, ce sont les violents qui ravissent le royaume des cieux. C'est le même mot, en grec c'est le mot harpazo, qu'on a vu dans L'enlèvement de l'Église. On a parlé depuis plusieurs mois de l'enlèvement de l'Église, de le fait que Dieu allait venir chercher son Église. 1 Thessaloniciens 4, 17, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, où Paul ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance, et il nous explique que ce qui va se passer pour les morts, pour les vivants, au retour de Christ. Il dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, 1 Thessaloniciens 4, 17, nous serons enlevés, c'est le même mot harpazo, attrapés, brutalement, soudainement. Jésus va nous kidnapper un jour l'Église. » On en a parlé longuement, vous pouvez trouver des messages sur le site web. Et donc, Jésus veut que d'une façon spirituelle, nous mettions toute la force de notre vie pour nous emparer, pour arracher, enlever son royaume. Je ne sais plus si ça existe, mais quand j'étais gosse, dans les manèges, les vieux manèges, il y avait souvent quelque chose à arracher, quelque chose qui montait, qui descendait, un peu comme les piñatas, pour ceux qui connaissent le Mexique ou les États-Unis. C'est où on laisse monter et descendre quelque chose que les enfants doivent arracher, attraper, ravir. Et d'un autre côté, nous savons que le royaume des cieux est soumis à la violence. Nous savons que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Souvent, ce n'est pas une bonne nouvelle. On aimerait bien pouvoir se relaxer. Tranquillo, je ne pose pas de problème, je vis avec mon Seigneur. Mais ce n'est pas de ce monde, ça. Si vous voulez suivre Jésus, vous allez avoir de l'opposition, vous allez avoir de la résistance. C'est ce que la Bible appelle le combat spirituel. Et d'abord, notre vieille nature de pécheur qui s'oppose à nos progrès vers Dieu. Et puis, cette vieille nature, elle est tentée par le monde, le système de valeurs qui rejette Dieu, qui nous entoure. Nous vivons dans un monde qui rejette Dieu. Même si nous sommes dans un pays où il y avait beaucoup de chrétiens, il n'empêche, il y a une opposition du monde. Le monde naturel ne veut pas de Dieu. Et puis, ce monde, il est sous la coupe du prince de ce monde qui est Satan, le diable. Et donc il y a une terrible opposition à nos progrès spirituels. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Est-ce que vous aviez remarqué que si vous cessez de faire des efforts, vous êtes comme l'enfant qui essaye de monter l'escalator qui descend? Dès qu'on baisse les bras, dès qu'on cesse de participer à des réunions chrétiennes, qu'on se relâche un peu le dimanche, qu'on ne fait plus trop d'études, qu'on ne prie plus trop le matin, qu'on ne lit plus trop la Bible, ça va vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition terrible et il faut exercer une force au moins égale pour ne pas reculer et une force supérieure à cette opposition pour avancer avec Christ. On est d'accord? On vit ça? On sait ce que c'est ou je parle dans le vide? Amen. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, on va voir que dans ce vieux chapitre, le chapitre 2 de ce vieux livre, plus exactement, parle de ce problème. C'est une bonne illustration de ce principe de Matthieu 11, 12. Ceux qui vont se saisir du royaume, ce sont ceux qui sont violents. Je pourrais même dire, ce sont ceux qui se font violence à eux-mêmes, ceux qui font violence à leur chair, ceux qui font violence au monde dans le sens où ils résistent avec tout ce qu'ils ont, avec toutes les ressources que Dieu met à leur disposition pour se battre. Encore une fois, si vous cherchez le Club Med, c'est pas ici. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont un peu des touristes. On vient une fois de temps en temps, les gens sont sympas, il y a du bon café, on peut revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Non, la vie chrétienne, c'est un combat. Et le chapitre 2, on a vu donc, pour rappeler brièvement le chapitre 1, que le roi David est mourant. Le roi David qui a beaucoup combattu, un des plus grands hommes de l'histoire humaine, sans doute, un homme qui était selon le cœur de Dieu. Quel compliment que de voir dans la parole de Dieu son nom associé avec cette caractéristique de dire qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il arrive à la fin de sa vie, il n'était pas parfait, il a péché. Son grand péché, ça a été l'adultère qu'il a commis avec cette femme mariée, Bathsheba, dont il a fait tuer le mari en l'envoyant au plus fort du combat, sous la direction d'un certain Joab, général des armées israéliennes. Et on sait que, après avoir caché ce terrible secret pendant un an, le prophète Nathan est venu lui faire avouer qu'il avait commis cet horrible crime, et que dans l'aveu de sa culpabilité, Dieu pardonnait déjà David. Dieu a été pardonné, mais le péché a suivi son cours terrible. Dieu nous pardonne, mais nos péchés ont des conséquences qu'il ne peut souvent pas éviter. Les conséquences du péché, nous devons les assumer avec son aide, mais nous devons les assumer. Et parce qu'il avait tué une personne, souvent dans l'Ancien Testament, la rétribution c'était de payer 4 fois plus. Et il a perdu 2-3 enfants, et là il va encore perdre un autre enfant. Un de ses fils, Adonia, qui était le plus âgé qui restait probablement, 2 étaient déjà morts, Amnon et Absalom, essaye de prendre le pouvoir. Il n'est pas nommé par son papa, mais il s'autoproclame roi, et ça inquiète dès qu'il entend parler de ça. Le prophète Nathan va prévenir justement Bathsheba, la femme avec qui il avait commis l'adultère. Un enfant était né qui était mort, mais il avait pu finalement épouser cette femme, et elle lui avait donné comme fils Salomon. Et apparemment, David avait promis à Salomon de lui succéder sur son trône. Nathan va dire à la maman que le fait que ce Adonia se proclame roi veut dire qu'elle va subir le sort de son fils, que Adonia va tuer Salomon et toute la famille de Salomon, y compris elle. Donc elle arrive à avoir une entrevue avec le roi qui maintenant est grabataire. Il ne bouge plus de son lit, il est trop âgé, il a même besoin qu'on le réchauffe. Et on nomme à cet effet, on en a parlé la semaine dernière, une jeune et jolie jeune fille, Abishag, la Sunamite, qui est chargée de dormir avec lui, mais apparemment ils n'ont pas de relation sexuelle, mais elle est comme une concubine. Et on va en reparler dans le chapitre 2. Et finalement, David reprend un peu d'énergie pour dire qu'il n'est pas question que ça se passe ainsi. L'Éternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse. Je fais le serment que c'est bien Salomon qui va me succéder. Et Adonia, apprenant cela, va prendre peur, parce qu'il sait que c'est un renversement brutal. On sait que ça arrive en politique, on pense être près du pouvoir et d'un seul coup on n'est plus au pouvoir. Aucune allusion avec ce qui peut se passer aujourd'hui en France. Mais finalement c'est Adonia qui va prendre refuge dans le temple. Il a peur d'être tué parce que c'est ce qu'il aurait fait à son frère. Et donc, si maintenant son frère est roi, il pense qu'il va le tuer. Et Salomon montre sa grâce. Il lui dit non, on va te laisser. Donc, chapitre 2, l'affermissement du royaume de Salomon. C'est le thème, verset 2, verset 12 plutôt du chapitre 2. Salomon siégea sur le trône de son père David et son règne fut tout à fait affermi. Le dernier verset du chapitre 2. Le roi donna des ordres à Benaïaou, fils de Jehoiada. Il sortit et frappa Shimei qui mourut. La royauté fut ainsi affermie dans la main de Salomon. David, comme Salomon, sont une préfiguration du roi qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Christ veut affermir sa royauté, son règne sur votre cœur. Est-ce que vous le voulez? Quand on est jeune chrétien, on apprend la prière du Notre Père et on dit que ton règne vienne. Autrement dit, que ton règne soit affermi dans ma vie. Et là, on va voir que si c'est votre désir, alors vous pouvez, dans ce chapitre de 1 Roi 2, voir comment ça peut se passer. Tout d'abord, on va lire au départ, David approchait de sa fin, il donna des ordres à son fils Salomon en disant « Moi je m'en vais où va tout ce qui est terrestre, sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant dans la vérité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais bien, et là il lui donne des recommandations, tu sais bien ce que m'a fait Joab, fils de Tseruya, ce qu'il a fait à deux chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter, il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la sandale qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, tu ne la laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaadite. Ils seront de ceux qui mangent à ta table, car c'est ainsi qu'ils sont venus au devant de moi lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici près de toi Shimei, fils de Guéra, benjaminite de Baourim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, je lui fis un serment par l'Éternel en disant « Je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras que ses cheveux blancs descendent ensanglantés dans le séjour des morts. » Wow. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la cité de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, 33 ans. On a un peu l'impression du parrain mourant qui donne des conseils au successeur, mais ce sont aussi des conseils que on a déjà vu donner. Lorsque Moïse est mort, l'Éternel est apparu à Josué. Et il lui a aussi donné des conseils pour être fort, pour être un homme. David donne d'abord des ordres à son fils. Vous avez remarqué, ce qu'on a lu là, on peut le diviser en deux choses. Il y a d'abord les choses spirituelles. Puis après, il y a les choses pratiques. Il nomme des noms, des personnes. Il y a un tel, méfie-toi de lui. Celui-là, j'avais juré de ne pas le faire mourir. Mais toi, tu n'as pas juré. Je te conseille de te débarrasser de lui. Il y a d'abord des conseils spirituels, ensuite des conseils pratiques. Et ça, c'est important dans la vie du chrétien d'avoir ces deux sagesses. Cette sagesse spirituelle, mais aussi cette sagesse de bon sens, de bon sens pratique. Et souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Les gens sont tellement spirituels. Alléluia, je ne sais pas, je verrai bien. Le Seigneur est bon, gloire à lui. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans un monde de la la land, de on ne sait pas trop où on est, où on plane. Où... Non. Le chrétien, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu, mais qui comprend son monde. Pour comprendre le monde, vous devez avoir d'un côté la Bible et d'autre côté le journal. Il y en a qui n'ont que le journal, des chrétiens. Puis d'autres qui n'ont que la Bible et qui vivent dans un monde éthéré, imaginaire. Non, Dieu rencontre les hommes là où ils sont. Et ce bon sens, il est aussi important que la vie spirituelle. Mais d'abord, le plus important, on est d'accord, c'est la vie spirituelle. Parce que les choses d'ici-bas, elles ne durent qu'un temps très très bref. Il est rappelé que David rappelle à son fils « J'ai une grande vie, j'étais un grand roi, mais je suis comme tous les hommes et je m'en vais à la façon de tous les hommes. » On ne vit bien la vie terrestre que lorsqu'on est conscient qu'il y a une vie après la vie terrestre. Si on met toute notre énergie, tous nos œufs dans le même panier d'ici-bas, très rapidement, on va s'apercevoir que on a fait fausse route, que dans quelques secondes, quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, quelques décades, mais ça va passer très vite de toute façon, je vais avoir des comptes à rendre à mon Créateur. Et en fonction de la vie présente que je vis ici, d'où l'importance des conseils pratiques et du bon sens, ma vie future, éternelle, immensément plus grande que ce court passage, ce court temps sur la scène du monde, de la terre, va arriver. Mais d'abord, il lui dit, sois fort dans ta relation avec Dieu. Et Dieu nous dit, soyez fort dans votre relation avec moi. Comment est-ce qu'on est fort dans notre relation? Je crois que c'est, si on regarde Josué, on va regarder rapidement le livre de Josué. Lorsque l'Éternel vient l'encourager, page 222 dans la Bible à la colombe, tout au début. Quatre fois, Dieu lui dit, fortifie-toi, sois fort. Sans doute parce qu'il savait bien, et Josué le savait sans doute, qu'il n'était pas fort. Le Seigneur sait bien que nous aussi, nous ne sommes pas forts en nous-mêmes. Il y en a qui se croient forts ici? Peut-être. Mais ça peut très rapidement changer. Il suffit d'une maladie, d'un retour de fortune, du décès d'un être cher pour s'apercevoir qu'on n'est pas fort, qu'on ne contrôle pas les choses. Notre vie de défaite devant le péché nous rappelle que par nous-mêmes, nous ne sommes pas forts. C'est pour ça que Paul disait dans Éphésiens 6:10, fortifiez-vous, mais fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force souveraine. Notre force, Elle n'est là que lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et que nous recevons la force de Jésus. Versets 7 et 8, le secret d'être fort, fortifie-toi et bon courage, verset 7, page 222, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Mais le secret, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, qu'il médite jour et nuit pour observer, c'est-à-dire obéir, mettre en pratique tout ce qui est écrit, et alors là, Dieu promet la réussite. Pas la prospérité, de la doctrine de la prospérité, d'être riche, de rouler en Cadillac, mais la vie abondante de Jean 10:10. Cette vie qui compte, cette vie où on se sent proche de Dieu, cette vie où on a la paix, où on peut s'endormir tous les soirs en lui recommandant notre sommeil dans la joie, dans la paix. Et la même chose, un roi 2 observe l'ordre de l'Éternel en marchant dans ses voies, en gardant ses prescriptions, ses commandements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, chapitre 3. Afin, même cause, mêmes effets, afin que tu aies du succès partout dans ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Sois fort dans ta relation avec Dieu en étant rempli de sa parole, en la considérant comme un trésor et en obéissant à cette parole. Est-ce que vous considérez que la parole de Dieu est un trésor ou est-ce que c'est quelque chose qu'on... D'accord, on parle un peu de la parole de Dieu, mais j'espère qu'on va chanter, qu'on va prier très fort, qu'on va faire des danses prophétiques, qu'on va faire plein de choses, mais oh, la parole, on connaît les histoires. Non. Encore une fois, dans toute la parole, Nouveau, Ancien Testament, c'est pour ça qu'on passe tant de temps à étudier la parole, et toute la parole, pas seulement les passages qui nous titille un jour et qui ne nous titille plus l'autre jour. Il lui dit, sois fort, sois un homme. Ça, c'est une question aujourd'hui. Où sont passés les hommes ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? C'est pas être macho. C'est pas aller dans la salle de gym pour faire des poids, des haltères, des machines. Être musclé comme Arnold Schwarzenegger, au temps de sa jeunesse. Non, c'est ressembler à Christ. Christ, c'est le modèle pour l'homme. Christ, il était caractérisé par la conviction de ses idées, ces idées qui sont la vérité. Il avait cette conviction qui pouvait se manifester par de la violence parfois. On se rappelle des changeurs d'argent au temple qui se font liquider physiquement par Jésus qui pique une sainte colère. Mais en même temps, Jésus, c'était aussi la compassion. C'est lui qui disait à la femme adultère, « Va et ne pêche plus, où sont tes détracteurs ?» Cette compassion doit accompagner notre conviction. Et donc, on est violent, mais on est violent plus avec nous-mêmes qu'avec les gens autour de nous. On est violent avec ceux qui peut-être, comme les changeurs du temple, utilisent la religion, utilise le désir des hommes de s'approcher de Dieu pour en tirer des profits matériels. Un autre exemple, c'est dans la Bible, des personnages, c'était le Samson qui s'était consacré à Dieu par un vœu, le vœu du Nazaréen, et qui était imbattable. Puis il a commencé à renier ce vœu en buvant, en allant dans les vignes, en cherchant à rencontrer plein de femmes. Aujourd'hui, on dirait ça, c'était un vrai mec, plein de femmes. Au contraire, c'est là qu'il a commencé à perdre toute sa force parce qu'il a négligé sa relation avec Dieu, son engagement avec Dieu. Jésus bâtit notre caractère quand nous obéissons à sa parole. Qu'elle est un trésor pour nous. Et je parle de soit un homme, soit une femme de Dieu aussi. Ça s'applique bien sûr aussi pour les femmes. Verset 3 nous dit que si on marche dans ses voies, si on adopte son style, si on garde ses prescriptions, alors on aura du succès. C'est encore une fois ce que Jésus appelle la vie abondante. Si on investit dans sa parole, si on l'étudie, si on la pratique, si on la mémorise. Pour David et Salomon, la promesse c'était une dynastie qui ne cesserait pas sur le trône d'Israël. Et si ses descendants avaient gardé ce serment, ce que Dieu leur demandait, de marcher dans ses voies, aujourd'hui, Israël serait une royauté, encore aujourd'hui. Nous savons que cette promesse va s'accomplir par le retour de Jésus qui va régner à Jérusalem, non seulement sur Israël, mais sur toute la terre, dans le royaume du millénium. Dieu a des promesses pour nous dans sa parole. Est-ce que vous les connaissez ? Et si nous vivons selon sa parole, alors elles vont s'accomplir dans nos vies. Mais sinon, on ne va pas récolter ces récompenses. Le Seigneur veut bénir nos vies. Est-ce que vous le saviez ? Et c'est nous qui, bien souvent, l'en empêchons. Vous vous souvenez du psaume 1 ? Le psaume 1 disait, on va s'y tourner rapidement, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, son trésor dans la loi de l'Éternel. Qui médite. » Et c'est ce que dit David à Salomon, « Fais d'abord ta joie des promesses du Seigneur, de ses lois, suis-les. » Jésus nous disait « Cherchez d'abord son royaume et toutes ces choses vous seront données en plus. » Et puis il y a la deuxième partie des ordres donnés par David à Salomon qui sont pratiques, on l'a dit. Cette sagesse pratique qui est importante pour préparer les batailles spirituelles, pour purger, éliminer les obstacles. Il y avait plusieurs personnages dont on a parlé. Joab, c'était l'ancien général de David, à qui David avait confié le soin de faire tuer le mari de Bathsheba en l'envoyant au plus fort du combat. C'était un homme violent. C'était un meurtrier dans l'âme. Il y avait un autre Shimei qui était traître, qui avait dit des choses horribles sur David. Mais David l'avait pardonné en se disant peut-être qu'il y a une partie de vérité et je veux pas le mettre à mort maintenant. Mais ces deux hommes notamment méritaient la mort. David ne les avait pas fait mourir parce qu'il pouvait les contrôler, mais ça aurait été des hommes qui auraient posé des problème terrible pour David, pour Salomon plutôt, le successeur de David. Ils n'étaient pas innocents. Ils avaient commis des choses qui méritaient la mort. Et c'est une des choses que Jésus va faire quand il va revenir sur la terre avant d'établir son royaume. Il va purger le monde. La bataille d'Armageddon. On verra le site si on va en Israël. Il va détruire l'antéchrist, le faux prophète et tous ceux qui veulent les suivre avant d'établir son royaume, d'affermir sa royauté. Et nous devons combattre avec les armes de Dieu. Nous devons aussi vraiment nous libérer des oppositions. Ensuite, il est question du roi Adonia. On n'a pas trop le temps, je vous laisserai lire le texte en détail. Simplement attirer votre attention sur le verset 15, où Adonia, à qui David, plutôt Salomon, a laissé la vie sauve en lui disant « Si tu restes calme, je te laisse en paix. » Mais Adonia vient voir Bathsheba, la maman de Salomon, et lui demande une petite faveur. Après lui avoir dit « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner, mais la royauté a tourné pour appartenir à mon frère, car elle est à lui de par l'Éternel. » Alors d'un côté il dit que la royauté lui revenait, peut-être basée sur le fait qu'il était le frère le plus âgé, mais il reconnaît en même temps que Dieu avait donné le royaume à son frère. Il n'empêche, c'est l'usurpateur, il veut toujours régner à sa place parce qu'il va demander, la faveur qu'il demande à Bathsheba, c'est d'aller voir son fils Salomon et de lui permettre d'épouser la dernière concubine du roi, cette Abishag, cette jeune belle femme, la Tsunamite, avec qui le roi n'avait pas eu de relation sexuelle. Mais on sait, quand on regarde notamment l'histoire d'Absalom et des concubines de David, que lorsque un roi prenait le pouvoir, il prenait les femmes de l'ancien roi pour dire que c'était lui, pour parler en termes de biologie, le mâle dominant. Et Salomon ne s'y trompe pas, il ne veut pas partager son règne avec un usurpateur. Et Jésus ne veut pas partager son règne dans votre cœur avec un quiconque usurpateur, quel qu'il soit. Et encore une fois, on pense que l'usurpateur, oui, c'est Satan, mais bien souvent, on peut s'en prendre d'abord à nous. Nous sommes nos premiers ennemis, notre vieille nature. La chair veut nous tromper, des fois avec des apparences religieuses aussi, comme dans le cas des personnages dont il est question ici. Ils vont souvent se protéger au temple, ils vont saisir les cornes de l'autel pour éviter qu'on les mette à mort. Mais Jésus est très jaloux de vous. Il vous aime, il n'a pas envie, il est très exclusif. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il n'est pas politiquement correct. Et nos cœurs, encore une fois, sont notre vieille nature sont un sacré handicap. Et il faut nous faire violence avec l'aide de Dieu pour dominer cette vieille nature. Jésus a dit, Matthieu 16, 24, 25, on peut regarder rapidement. Ça c'est un des versets qui m'a interpellé quand j'étais en recherche, presque pas encore jeune chrétien ou jeune chrétien, mais ce qui est demandé est tellement radical que soit c'est une folie, soit c'est la vérité la plus profonde. Et mon cœur, par l'Esprit Saint, a compris que c'était la vérité la plus profonde. Jésus dit à ses disciples, après que Satan lui ait dit « Ah non, tu ne vas pas aller mourir », Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque la perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Ça, c'est un précepte si paradoxal. Si vous voulez trouver la vie, il faut mourir. Si vous voulez vivre, vous allez mourir. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas la vérité? Si on a pu se trouver dans des situations où on est mort à nous-mêmes, et on a vu qu'en fait, en donnant la priorité aux autres, en ayant cet esprit qui était en Christ, qui a considéré les autres plus importants que nous-mêmes, c'est là que nous avons la vraie joie, que nous sommes vraiment des hommes, que nous sommes vraiment des disciples de Christ. La solution, comme pour Adonia, c'est pas d'accepter un compromis avec les tentations, c'est la mort. Et c'est le remède de la croix. La croix, ce n'est pas un joli petit bijou en or, en nacre, en ce qu'on veut. C'était la peine capitale. C'était la peine de mort. Et dans Romains 6, on verra, Paul dit « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Si vous êtes à Christ, vous n'êtes plus esclaves du péché. Peut-être que l'ennemi, votre chair, votre vieille nature vous fait croire que « Oh, vous ne pouvez pas résister, c'est faux. » La croix veut me détruire et mettre Christ sur le trône de mon cœur. Dans Galates 2, 20, un passage bien connu aussi, qui est aussi une vérité spirituelle que Dieu voit comme déjà réalisé, c'est « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est plus moi qui vis si je suis vraiment en Christ. Et Adonia est donc éliminé, une façon d'affermir le royaume. Et puis il y a deux autres personnages encore. Il y a Abiathar, l'ancien prêtre, qui avait été infidèle à Salomon en soutenant justement Adonia. Verset 27, qu'est-ce qu'il est dit ? Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, « Va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant mon père David, et parce que tu as eu part à tous les tourments de mon père. » Et donc, Salomon, dans sa sagesse, ne donne pas le même jugement à tous, mais il choisit de bannir, d'exiler Abiathar. Il était le dernier descendant de la famille d'Eli, à qui Dieu avait promis d'enlever le sacerdoce de cette famille, la prêtrise. Eli, qui avait était le grand prêtre à l'époque du petit Samuel qu'il avait élevé dans les voies de Dieu, était un homme formidable, mais il avait un grand défaut, il était très faible avec ses fils. Et ses fils se comportaient de façon ignoble. Ils volaient les offrandes que les croyants venaient faire au temple, ils prenaient les sacrifices, ils prenaient les meilleurs morceaux de viande. Ils vivaient dans l'immoralité, les femmes qui venaient au temple, ils avaient des relations sexuelles avec elles. Et il y a un jugement qui tombe. 1 Samuel, chapitre 2, verset 22, brièvement. Tout ce que pouvait dire Élie, c'était « Mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon, ce que vous faites n'est pas bien. » Et Dieu parle par un homme de Dieu qui vient à Élie et qui lui dit que sa prêtrise ne durera pas. Et donc c'était l'accomplissement d'une prophétie. Ses fils d'Élie cherchaient les plaisirs à tout prix. Et nous sommes dans une société qui recherche le plaisir à tout prix. Même si nous sommes honnêtes dans nos cœurs, qu'est-ce qui nous motive pour continuer? C'est le prochain long week-end où on va partir en virée à Londres, c'est l'achat d'une moto, c'est la visite de quelqu'un. On saute de plaisir en plaisir, quand ce n'est pas des plaisirs plus charnels et plus indignes. Dans 1 Jean 2,15, il est pourtant dit de ne pas chercher à satisfaire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Pierre nous disait « Abstenez-vous des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Et quand on cède aux tentations des plaisirs, on se sent mal. Quand on cède au péché, parce que on a détrôné Christ. Et quand Christ n'est plus sur le trône, on est un peu perdu et on se sent, on a une amertume dans l'âme. Et la clé de s'abstenir, c'est de marcher selon l'esprit, Galates 5,16, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. La question, c'est qu'est-ce que je fais de mes pensées, de mon temps, de mes sentiments, de mes émotions, de mes énergies? Est-ce que je les mets dans les choses d'en haut ou dans les choses d'en bas? Dans Matthieu, Jésus disait quelque chose de surprenant. Il disait « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On pourrait penser que c'est l'inverse. Si on a quelque chose à cœur, ça va devenir notre trésor. Mais il nous dit non. Si vous chérissez quelque chose, votre cœur va le suivre. Si vous intéressez à la bourse, d'un seul coup, la bourse va être quelque chose. Vous vous réveillez le matin, vous allez vouloir connaître le dernier cours de vos actions en bourse. Aujourd'hui, on dit « suivez votre cœur ». C'est pas grave, la moralité, du moment que vous suivez votre cœur. Mais Jérémie nous disait, Jérémie 17,9, « le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut lui faire confiance ?» Il ne faut pas suivre son cœur, il faut suivre le Seigneur. Amen. Et puis après, il y a Joab, verset 28, pour revenir à notre chapitre 2 de 1 roi. Joab, encore une fois, c'était cet homme violent, meurtrier, comme nos cœurs. Nous aussi, on peut avoir... Jésus nous a dit que on n'a peut-être pas commis de meurtre physique, mais quand on a de la haine pour quelqu'un, quand on dit du mal de quelqu'un, quand on dit imbécile, raca, on ne dit plus raca, mais on dit plein d'autres noms d'oiseaux. Et Jean disait dans 1 Jean 3,15, celui qui a de la haine est comme un meurtrier. C'est la même chose, ce n'est pas le bon verset, mais c'est le même principe. Celui qui a de la haine dans son cœur pour quelqu'un est comme un meurtrier. Et là aussi, Joab, le roi envoie, c'est à partir du verset 28, Benaïaou, fils de Jéhoïada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Aussi simple que ça. Parce qu'il avait tué des hommes en temps de paix. David disait que l'Éternel fera retomber sur son sang, verset 32, sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'été sans que mon père David le sache, Abner et Amasa, le chef des armées de Juda. Il y aura paix pour toujours de par l'Éternel pour David, pour sa descendance, pour sa maison et pour son trône. Il était prêt, s'il s'était repenti, à pardonner. Et nous, nous devons aussi pardonner ceux qui se repentent. Nous devons pardonner 7 fois, 77 fois. Le dernier personnage, c'est verset 36, Shimei. Là, David lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu habiteras là et tu ne sortiras pas, d'un côté ou d'un autre, parce que sache que le jour où tu passeras la vallée du Cédron, qui délimitait cette partie de Jérusalem, ton sang sera sur ta tête. » Autrement dit, tu y passeras, tu seras exécuté. Shimei était très inconstant. On a vu comment il était un traître. Il avait d'abord été pour David, puis après pour Absalom. Il avait insulté David et puis David l'avait pardonné. Et David lui dit, reste près de moi, ne va pas te promener n'importe où. Sans doute parce qu'il voulait pouvoir le garder un peu comme avec un bracelet électronique. Il voulait savoir où il était. Mais il n'est pas resté à Jérusalem avec Salomon. Il n'est pas resté près du roi. La conséquence, c'est qu'il est mort. Pourquoi, verset 43, n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, tu le sais, tout le mal que ton cœur a conscience d'avoir fait à mon père David, l'Éternel fera retomber ta méchanceté sur sa tête. Mais le roi Salomon est béni, le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benaïaou, fils de Jehoiada. Il sortit et frappa Shimei qui mourut. La royauté fut ainsi affermie dans la main de Salomon. Là, on peut voir une leçon. Si on ne reste pas près du roi, on va trouver la mort. Si on s'écarte de Jésus, de ses préceptes, de son chemin, si on ne marche pas selon l'esprit, si on sème pas pour la justice, mais pour l'injustice, on va récolter la mort. Et donc on voit que on a plein de conseils pratiques dans ce vieux texte pour savoir comment marcher près de Dieu, savoir comment affermir le royaume de Dieu dans nos vies. Ma prière, c'est que tous autant que nous sommes, nous ayons vraiment ce désir. Peut-être que, je ne sais pas où vous en êtes, pour certains je sais un peu plus parce qu'on parle de ces choses, pour d'autres peut-être pas trop, on ne se voit pas souvent, on n'en parle pas. Mais où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Est-ce que c'est mieux qu'il y a un an ou est-ce que c'est un peu moins bien ou est-ce que ça a stagné? Rappelez-vous, si ça stagne, ça va reculer. Il faut, encore une fois, saisir, arracher le royaume des cieux avec violence. Violence sur notre chair, violence sur le monde, violence sur le diable. Mais ça commence par suivre Christ. Ça commence par ne pas s'éloigner de lui. Ça commence par faire de sa parole un trésor, par lui obéir. Et encore une fois, il y a les promesses de vie abondante, les promesses de joie, les promesses de délices à sa droite. Amen.